Il est 11h30, Infomag, Nicolas Legrand.
Les élections provinciales seront reportées jusqu'à fin 2025. Quant au texte sur le dégel, il ne sera pas présenté au Congrès de Versailles. Ce sont les deux principales annonces concernant la Nouvelle-Calédonie lors de la prise de parole de Michel Barnier. Réaction calédonienne à suivre. Le Premier ministre qui prononçait donc sa déclaration de politique générale, un rendez-vous très attendu à l'Assemblée nationale. 1h23 de discours, largement soutenu par les LR, de façon plus mitigée dans le camp présidentiel et au Rassemblement national. La gauche, de son côté, est vent debout. En Nouvelle-Calédonie, la Goune reconstruit. Un mois et demi après la cyberattaque, le fournisseur d'accès communique sur la hausse de son niveau de sécurité. Un événement à ne pas manquer, la Foire du Pacifique s'installe Baie de la Moselle. Ce week-end, 250 exposants accueilleront les visiteurs. Un événement qui redonne le sourire aux artisans et aux acteurs du tourisme, notamment en cette période de disette. Le sport et Suzanne Wajoka appelée en bleu, la handballeuse calédonienne va faire ses premiers pas avec l'équipe de France A. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une ce midi, le Premier ministre Michel Barnier qui a donc prononcé une déclaration de politique générale de plus d'1h20 à la tribune de l'Assemblée nationale. Une déclaration qui s'est déroulée sous les huées des députés de gauche. Imperturbable, le Premier ministre a présenté la feuille de route de son gouvernement et nous y reviendrons dans un instant. Mais il a aussi évoqué le dossier calédonien. Michel Barnier y a consacré 2 minutes 30 et il a fait plusieurs annonces. Il a d'abord rappelé le contexte particulier que vit le territoire et il a insisté sur l'implication de l'État dans le dossier calédonien.
Si vous me le permettez, je voudrais, mesdames et messieurs les députés, dire un mot particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie, dont je salue amicalement et cordialement les élus qui sont ici. Depuis maintenant 4 mois et demi, ce territoire connaît une crise d'une gravité exceptionnelle. J'ai conscience des souffrances et de l'angoisse que ressentent les habitants de Nouvelle-Calédonie et je veux leur redire que l'État et mon gouvernement seront à leur côté. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour l'apaisement. En premier lieu, nos forces de l'ordre, les fonctionnaires de l'État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient du monde économique, religieux ou coutumier. Une nouvelle période doit maintenant s'ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel.
Deux priorités pour le Premier ministre dans cette nouvelle étape, la reconstruction économique et sociale et la recherche d'un consensus sur l'avenir institutionnel. Il a ensuite annoncé la méthode pour reprendre le dialogue politique et notamment l'envoi d'une mission de concertation et de dialogue en Nouvelle-Calédonie. Elle sera menée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et par le président du Sénat, Gérard Larcher.
Ce travail sera conduit dans le respect des convictions de chacun et du respect de la diversité du peuple calédonien et des principes démocratiques. Je m'y emploierai personnellement et je veux aussi vous remercier, Madame la Présidente, remercier le Président du Sénat, puisque vous avez accepté tous les deux de conduire une mission de concertation et de dialogue qui se rendra en Nouvelle-Calédonie prochainement. Afin de garantir une gestion dans la durée de l'ensemble des enjeux calédoniens, les discussions ont été depuis quelques jours et seront soutenues à Paris et en Nouvelle-Calédonie par une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre et du ministre de l'Outre-mer.
Le Premier ministre a ensuite annoncé le report des élections provinciales, la non-convocation du Congrès de Versailles sur le corps électoral et des discussions à Paris autour du président Emmanuel Macron.
Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le président de la République aux élus de Nouvelle-Calédonie, comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre.
2 minutes 30 dans une déclaration de politique générale d'1h20, c'est malgré tout une place substantielle accordée à la Nouvelle-Calédonie. On en retient que le Premier ministre est désireux de s'impliquer personnellement dans ce dossier. Dans une lettre envoyée avant son discours aux parlementaires calédoniens, il affirmait que cette période de quelques mois permettra de mener la concertation sur l'avenir institutionnel et le développement de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. J'ajoute que la délégation interinstitutionnelle assistait à cette déclaration de politique générale et qu'elle a été saluée par la présidente de l'Assemblée et applaudie par les députés, toutes tendances confondues. Mais la déclaration de politique générale de Michel Barnier a été accueillie diversement par les élus calédoniens, Elisabeth Noir.
Les deux députés calédoniens étaient présents, bien sûr, dans l'hémicycle pour cette déclaration de politique générale. Le député Nicolas Mazeroff a tout de suite exprimé sa très vive déception. Dans un communiqué, il estime que le Premier ministre est passé à côté des priorités des Calédoniens. Et au micro de notre correspondant à Paris, il évoque une feuille de route déconnectée de la réalité.
Une déception, puisque le Premier ministre n'a pas parlé d'annonce budgétaire pour la Nouvelle-Calédonie, alors que c'est quand même l'urgence absolue d'aider nos entreprises, d'aider nos salariés à subvenir à leurs besoins. Et puis il a parlé en plus du congrès de Versailles sur le dégel du corps électoral. Il a dit qu'il ne réunirait pas le congrès de Versailles, alors que ce n'est pas sa compétence. C'est le président de la République qui décide de convoquer ou pas, ce n'est pas le Premier ministre. Donc il est passé à côté de sa déclaration de politique générale sur la Nouvelle-Calédonie. Il s'est fait applaudir sur le sujet par la France insoumise. Et il a eu un tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon, ce qui démontre que quand même il n'a pas saisi toute la gravité du dossier. C'est pas faute d'expliquer les choses, mais apparemment il faudrait expliquer 2 à 3 fois plus. Donc on sait ce qu'on va faire. Je devais rentrer en Nouvelle-Calédonie, je pense que je vais rester pour continuer de faire de la pédagogie et de réexpliquer les choses. Et s'il faut s'énerver un petit peu, on va s'énerver un petit peu.
Nicolas Mazeroff prêt à s'énerver un petit peu. Il estime que le Premier ministre a oublié les victimes des émeutes.
Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il va faire une réunion pour parler d'économie et de social, parce que c'est l'urgence. Et que oui, dans un second temps, on décale les élections provinciales pour parler du reste, et qui est important aussi. Mais on ne peut pas commencer par dire on fait pas le dégel du corps électoral. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ils sont où les Calédoniens qui ont été victimes des exactions dans le discours du Premier ministre? Ils sont où les Calédoniens victimes dans son discours? Pas un mot sur un soutien financier. Et en plus, on leur explique que ceux qui ont cassé ont eu raison de casser parce qu'on ne va pas convoquer le congrès de Versailles. Où sont les Calédoniens victimes des exactions dans le discours du Premier ministre? Nulle part.
Le député de la première circonscription siège au sein du groupe Ensemble pour la République. Il affirme que ses collègues Gabriel Attal et Gérald Darmanin n'ont pas compris, eux non plus, le sens de cette déclaration de politique générale concernant la Nouvelle-Calédonie.
Moi, jamais je laisserai la chaise vide à une table de négociation. Jamais. Je serai toujours là. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un désaccord politique sur la déclaration de politique générale. Et que s'il ne rectifie pas le tir, si, en fait, le Premier ministre, il ne donne pas d'aide aux Calédoniens et qu'en plus, il leur dit « vous n'aurez pas le droit de vote », je ne vois pas pourquoi je le soutiendrai, tout simplement. C'est aussi simple que ça. De toute façon, mon groupe n'a pas compris ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que dans la Macronie, on est stupéfait de la DPG du Premier ministre sur la Nouvelle-Calédonie. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux. Ils sont sur les fesses, comme on dit. Voilà. Donc, je vais rester à Paris. Je vais demander un rendez-vous à Michel Barnier. On va s'expliquer et puis on va voir ce qu'il en ressentira.
Nicolas Mazeroff qui va donc demander un entretien au Premier ministre dans les prochains jours. Une tonalité similaire pour la présidente de la province sud, Sonia Backès, qui est actuellement à Paris. Dans un communiqué, elle indique que la déclaration de politique générale du Premier ministre n'a pas répondu aux attentes de la Nouvelle-Calédonie. Analyse différente en revanche pour Virginie Ruffnac, le chef du groupe Rassemblement au Congrès. Elle assistait à cette déclaration de politique générale au sein de la délégation interinstitutionnelle. Elle insiste, elle, sur l'intérêt porté par Michel Barnier à la Nouvelle-Calédonie et elle relève que la question du corps électoral sera traitée dans un accord global.
Cette déclaration de politique générale inclut un passage très important sur la Nouvelle-Calédonie, qui finalement est le seul outre-mer dont le Premier ministre a autant parlé dans sa déclaration de politique générale. On voit bien qu'il y a un engagement total de l'État à traiter véritablement le sujet calédonien aujourd'hui, avec une mission dépêchée très rapidement à la fin octobre, composée du président du Sénat, Gérard Larcher, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Bompivé, ainsi que du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui viendra à la fois au chevet des Calédoniens, mais pour discuter des besoins en termes de reconstruction, de la façon dont on engage désormais les discussions politiques sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisque vous le savez, il y a un report qui a été donné aux élections provinciales pour précisément atteindre un accord global qui reprendra une discussion sur l'ouverture du corps électoral qui est indispensable avant la tenue des prochaines élections. Donc on privilégie aujourd'hui le dialogue approfondi pour obtenir un accord et pour faire en sorte que ces élections provinciales qui se tiendront en 2025 qui se passe dans de bonnes conditions, dans des conditions apaisées, où on aura eu le temps de régler tous les problèmes, dont celui du corps électoral.
Et dans un communiqué, la délégation interinstitutionnelle a salué unanimement le discours du Premier ministre en parlant d'une gestion du dossier qui sort de la politique du coup par coup. Le député indépendantiste de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, s'est quant à lui montré plutôt satisfait des annonces faites par Michel Barnier. Le dégel du corps électoral qui ne sera pas soumis au congrès de Versailles ajouté au report des élections provinciales, ce sont pour lui autant de signes positifs.
Oui, je pense que c'est déjà le signe qui nous permet d'aller au-devant de nos compatriotes avec la reconnaissance que l'État prenne ses responsabilités sur la sortie de crise et la reprise des discussions institutionnelles. C'est surtout ça, c'est le fait de prendre ses responsabilités quant au fait de ne pas représenter le texte au Congrès de Versailles. C'est quelque chose qui était attendu au pays. Et puis après, dans le même temps qu'il y a les reprises de discussions institutionnelles, le report des élections provinciales au pays, il y avait deux options qui étaient prises par les indépendantistes. C'était pas tranché, mais de toute manière, on prend acte. Il y a des annonces, après, il faut juger sur acte, hein. On ne peut pas être juste suspendu aux lèvres de M. Barnier en se disant que la situation va s'apaiser de fait.
Quant aux réunions évoquées par le Premier ministre, Emmanuel Tchibaou en prend acte, mais avant de décider d'y participer, il va d'abord soumettre le projet aux groupes de pression locaux. Et pour l'instant, Emmanuel Tchibaou estime que l'ordre du jour de ces réunions n'est pas assez explicite.
Une fois qu'il l'a annoncé, il faut le concrétiser et puis déterminer un ordre du jour. Je n'ai pas entendu de calendrier. Nous, si on doit aller au-devant des différentes instances, des groupes de pression indépendantistes là-bas au pays, il faut que ça soit un petit peu plus explicite sur le postulat dans lequel on pose la reprise des discussions. On a bien entendu que le projet de loi constitutionnelle ne serait pas présenté au Congrès de Versailles. D'une, la situation du report des provinciales, ça nécessite loi organique, donc du coup aussi de notre côté révision des listes, etc. Et puis de deux, le postulat sur lequel les discussions institutionnelles reprennent, c'est-à-dire nous on est toujours dans l'écriture de la suite de l'accord de Nouméa, accord de décolonisation. Pour l'instant ça n'a pas été précisé et on espère que cet ordre du jour et puis ce calendrier puisse être partagé, mais surtout être plus explicite pour que nos compatriotes, notamment sur le plan de reprise économique, puissent avoir des perspectives qui ne soient pas celles qu'on a aujourd'hui. On a besoin quand même d'avoir un peu plus de lisibilité.
Voilà pour les premières réactions. Il y en aura sûrement d'autres dans les jours qui viennent, étant donné qu'en 2 minutes 30, le Premier ministre Michel Barnier a tout de même annoncé un certain nombre d'éléments concernant l'avenir de la Calédonie.
Merci beaucoup Elisabeth Noir. Il est 11h passé de 42 minutes. On va voir les autres éléments de cette déclaration de politique générale en ce qui concerne l'actualité politique nationale. Ce sera juste après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Opération hybride chez Toyota. Profitez de nos offres avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. La Toyota Yaris à partir de 33 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Yaris Cross à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota CHR à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross à partir de 45 900 francs par mois, entretien inclus. Et le Toyota RAV4 à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Opération hybride, c'est aussi chez Toyota Occasion, avec des remises allant jusqu'à moins 500 000 francs. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi, voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et on en revient donc à cette déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier qui a duré près d'une heure et demie, un moment très attendu évidemment. Le Premier ministre qui a sans surprise été très chahuté par la gauche, Isabelle Pelletier.
Mais vous l'avez dit Nicolas, Michel Barnier est resté imperturbable. Le Premier ministre a insisté sur l'état préoccupant des comptes publics. La dette colossale du pays établie à 3228 milliards d'euros est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de son futur, a-t-il déclaré. Cette année, le déficit public devrait dépasser 6% de notre richesse nationale, a martelé le Premier ministre. Une situation intenable, il faut donc alléger le fardeau, déclare Michel Barnier, pour revenir sous le plafond de 3% en 2029.
Notre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Ainsi, je veux vous dire, comme premier engagement, que notre volonté est de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025. Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3% en 2029 dans le respect de nos engagements européens. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Nous le ferons sans remettre en cause notre compétitivité.
Un effort sera également demandé aux Français les plus fortunés qui devront s'acquitter d'une contribution exceptionnelle. Les contours de cette contribution à venir n'ont pas encore été précisés. Le gouvernement promet de lutter également contre la fraude fiscale et sociale, y compris, je cite, en sécurisant les cartes vitales pour éviter le versement indu d'allocations. Sur le plan sociétal, Michel Barnier a tenu à énoncer ses propres lignes rouges.
La proposition du président de la République d'être le premier ministre de notre pays, j'ai depuis ce moment-là gardé en mémoire mes propres lignes rouges, qui sont celles d'ailleurs de tout le gouvernement. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard
des
violences faites aux femmes. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme. Il n'y aura aucun accommodement sur la défense de la laïcité.
Dans un contexte de vie chère, le Premier ministre a bien sûr abordé le niveau de vie des Français, notamment avec la revalorisation du SMIC de 2%, effective dès le 1er novembre et non plus à la date du 1er janvier. La crise du logement sera également au cœur des chantiers du gouvernement, tout comme l'amélioration des transports. Autre chantier, la sécurité, avec notamment le durcissement des politiques pénales. Michel Barnier souhaite aussi le renforcement des dispositifs des forces de l'ordre.
Nous allons généraliser la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous proposons des peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits. La fermeté de la politique pénale que les Français demandent est indissociable du respect de l'état de droit.
Michel Barnier a encore déploré que la France ne contrôle plus sa politique migratoire et s'est dit en faveur du rétablissement des frontières dans le respect des règles de l'Union européenne. Le Premier ministre entend encore apporter des aménagements raisonnables et justes à la réforme des retraites, soutenir les familles et encourager le bénévolat et poursuivre les efforts en matière d'écologie.
Le Premier ministre qui a obtenu le soutien plein et entier de la droite, un appui réservé de la part du Rassemblement national et de Renaissance. En revanche, la gauche, et notamment LFI, est en opposition totale et l'a fait largement savoir.
Alors Marine Le Pen s'est exprimée à la tribune juste après Michel Barnier devant l'Assemblée nationale. Elle ne censurera pas le Premier ministre dans l'immédiat, mais elle fixe quelques lignes rouges tout en temporisant et en jouant la carte de la responsabilité.
Par patriotisme, par égard pour nos compatriotes qui souffrent, par respect de nos institutions, et compte tenu de la tâche ingrate qui vous incombe, Monsieur le Premier ministre, le mouvement national n'entend pas entraîner le pays vers le chaos.
Le RN a donc fixé trois lignes rouges, pas d'augmentation d'impôts sur les classes moyennes et populaires, l'introduction du scrutin proportionnel aux élections législatives et l'assurance d'un changement profond de la politique pénale. Marine Le Pen qui se laisse ainsi la possibilité de censurer dans quelques mois un gouvernement qu'elle qualifie de circonstance. La Macronie, elle, se déchire sur le cap fixé par Michel Barnier, notamment sur les questions de sécurité ou encore de budget. Elle soutient le Premier ministre, mais pas sans quelques appréhensions. On écoute Gabriel Attal.
Le clivage majorité-opposition doit être dépassée au profit d'un nouveau clivage. Ceux qui veulent agir concrètement et ceux qui ne le veulent pas.
Le groupe Renaissance qui s'oppose surtout aux impôts pour les grandes entreprises. Le Premier ministre a achevé son discours, ovationné par LR tous debout, soutien aussi du patron du groupe droite républicaine, Laurent Wauquiez.
Dans notre histoire, il y a toujours eu cet espoir. Il faut être les républicains d'aujourd'hui dans un pays qui en a tant besoin. Faire œuvre utile, avec courage et détermination, c'est ce à quoi nous allons nous atteler autour de Michel Barnier pour mener cette politique de changement.
À gauche, en revanche, opposition unanime et notamment du côté de LFI qui affirme vouloir censurer le gouvernement et destituer le chef de l'État. On écoute la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot.
Nous avons gagné ces élections en déjouant tous les pièges. Nous devons gouverner. Mais c'est donc vous, Monsieur Barnier, qui avez été nommé. Vous, issu d'un parti ultra-minoritaire, dont le score de forme oscille entre 5 et 6 % des suffrages exprimés.
À gauche encore, le chef des députés socialistes Boris Vallaud a affirmé que si le pouvoir avait quitté l'Élysée, il n'était plus à Matignon mais au Palais Bourbon. La chef du groupe écologiste et social, Cyrielle Chatelain, a lancé un avertissement à Michel Barnier. Votre gouvernement a une durée de vie limitée. Du côté des communistes, André Chassaigne a taclé un programme qui est selon lui une potion à base d'injustice, d'insécurité et d'instabilité. Plus au centre, le patron du Modem a réaffirmé l'attachement de son parti à des mesures de justice fiscale. Le chef du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe, Laurent Marcangeli, a invité à ne pas céder au réflexe d'augmenter les impôts de façon indifférenciée, mais il s'est dit ouvert à quelques ajustements conjoncturels sur la fiscalité.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h51.
Un mot d'actualité à l'étranger, marqué par cette attaque. Il était près de 3h30 du matin, heure de Nouméa, lorsque 180 missiles iraniens ont été tirés vers Israël. La plupart interceptés par le dôme de fer. Et après cette attaque, Tel Aviv promet donc une riposte forte. Wilfried de Villers.
Oui, c'est ce qu'a de nouveau promis ce soir le chef d'état-major Herzi Halevi à l'issue d'une réunion. Nous choisirons, dit-il, le moment opportun pour faire payer le prix à l'Iran et nous démontrerons nos capacités d'attaque. Un peu plus tôt dans la soirée, l'armée évoquait aussi de possibles frappes au Moyen-Orient dès cette nuit sans apporter plus de précisions. La plupart des missiles ont été interceptés par le dôme de fer et les autres systèmes de défense aérien, même si deux blessés légers sont à signaler. Des destroyers américains déployés au large d'Israël ont également tiré une douzaine d'intercepteurs contre ces missiles iraniens. C'est tout le quart nord-ouest du pays qui a été visé par cette salve de missiles. Après s'être réfugié dans les abris pendant environ une demi-heure, les habitants, les Israéliens ont pu à nouveau circuler normalement, quasi normalement, même si les rassemblements publics sont limités partout dans le pays. Et dans la zone nord d'Israël, les écoles, elles, sont fermées jusqu'au 5 octobre. De leur côté, les gardiens de la révolution iranienne assurent que leur attaque est une réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah, Hassan Nasrallah particulièrement. Téhéran qui a tiré deux fois plus de missiles, 180 au total, que lors de sa précédente attaque directe contre Israël, c'était en avril dernier. Enfin, tout juste avant l'attaque iranienne, 6 personnes ont été tuées dans un attentat à l'arme automatique et à l'arme blanche dans le quartier de Yafo à Tel Aviv. Et les assaillants ont notamment tiré sur un tramway. Ils ont été neutralisés par la police.
Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Dans la matinée, l'armée israélienne a frappé la banlieue sud de Beyrouth. Le ministère libanais de la Santé qui a annoncé que 55 personnes avaient été tuées et 156 autres blessées par des frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures. Il est 11h53, vous écoutez RRB, on marque une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant la suite de l'actualité sur le territoire qu'on commencera avec un point sur la cyberattaque de Lagoun. L'heure est désormais à la reconstruction.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vivez la Foire du Pacifique avec RRB, la radio partenaire. 3 jours de direct, des reportages, des émissions en public, de la musique en live. Venez rencontrer vos journalistes et animateurs préférés et jouer au grand jeu RRB pour gagner plein de cadeaux, dont une nuitée pour deux personnes à l'Oasis Kiamou. En plus, venez faire tourner la roue de la chance sur le stand RRB. À gagner des beaux cadeaux offerts par la Province Sud, Sound City, Canal Plus et CG Diffusion et 2 mini Tacoma électriques pour enfants offerts par Toyota. RRB, au cœur de la Foire du Pacifique.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop! Ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le reste de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Après la menace et les dégâts, la restauration, un peu plus d'un mois après avoir été victime d'une cyberattaque de grande ampleur, Lagoun entame donc désormais une phase de reconstruction, Léana Colombo.
Le 18 août dernier, le fournisseur d'accès à Internet Lagoun a été la cible d'une cyberattaque par rançonnage, impactant ses infrastructures d'hébergement et de serveurs. De nombreux usagers, particuliers comme professionnels, ont été impactés. La messagerie a notamment été inutilisable pendant près de 2 semaines et l'accès à Internet a été dans les premiers temps impossible pour de 40% des abonnés. Dans son histoire, le fournisseur a déjà été victime de cyberattaques et a toujours réussi à les contrer. Mais la situation depuis le 13 mai a fragilisé l'entreprise, explique le directeur général de Lagoun, Stéphane Mathéo.
On était une cible parfaite, c'est-à-dire que nous, au Plexus, non seulement nous avons nos bureaux, mais nous avons aussi une salle informatique qui était notre salle de secours. Quand le Plexus a été attaqué, on a été partiellement incendié, mais vandalisé, rendu inexploitable tout cet environnement. Donc à ce moment-là, quand on a été attaqué, les attaquants ont non seulement chiffré notre sauvegarde locale qu'on avait gardée en Nouvelle-Calédonie, mais ils avaient effacé celle qu'on avait à Paris. Donc ils nous ont laissé à ce moment-là juste sous perfusion avec une entreprise qui marchouillait, on va dire. Quand on travaille dans le milieu, on sait ce qu'un ransomware, on sait que ça va être un monstre à traiter. On prend une bonne claque derrière la tête et à ce moment-là, on commence à mettre nos premières briques en place par une cible de crise, par des gens pour nous accompagner. On met tous nos sentiments de côté. On est presque un robot, on exécute un mode opératoire. L'émotion, on la met de côté. On n'a pas le temps, on n'a pas ce luxe.
À l'heure actuelle, les cybercriminels n'ont toujours pas été identifiés et localisés, mais tous les serveurs Lagoon sont désormais rétablis. Pour contenir les effets de la cyberattaque, le fournisseur d'accès s'est tourné vers les forces de l'ordre, des entreprises locales expertes en cybercriminalité, mais aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Une expertise bienvenue selon Stéphane Matteo, qui aura permis d'empêcher la propagation du logiciel malveillant à d'autres réseaux.
Sur cet incident, l'ANSSI nous a énormément accompagnés, dans un premier temps depuis la métropole, depuis Paris. Et ils ont dépêché une équipe qui est arrivée le jeudi, quatre ingénieurs, qui ont d'abord démarré un travail de forensique, relevé de traces, afin de déterminer par où les cyberattaquants sont passés. Ils nous ont aussi aidés à récupérer la main sur notre plateforme d'hébergement par une porte dérobée, avec des astuces, vraiment c'était des experts en la matière. Et de là, ils ont continué avec des conseils sur la sécurité et l'architecture de notre environnement. Ils avaient une expertise qui nous ont fait un bond vers l'avant, qui nous ont aidés dans cette période de crise.
Toute menace étant désormais écartée, il faut penser à la reconstruction d'un réseau sain. C'est ce qu'ont déjà entamé les équipes de Lagoon. La phase devrait durer jusqu'à fin janvier 2025. Pour Stéphane Matteo, ce temps est nécessaire pour protéger plus efficacement les données.
Cette phase de restauration de données prend un certain temps parce que même si on récupère la main sur de la donnée, il faut un temps pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de mouchards, on va dire, laissés par les cyberattaquants. On était obligé de se garantir un maximum d'une certaine non-compromission de la donnée avant de pouvoir la remettre à disposition, soit pour nos clients résidentiels, soit pour nos clients professionnels. Nous allons reconstruire en suivant les directives NIS 2, donc les directives européennes sur la cybersécurité. Nous sommes accompagnés par l'ANSSI et par une société spécialiste en cybersécurité. Sécurité sur le territoire. Donc, on investit massivement, non seulement dans les outils pour détecter toute anomalie sur notre infrastructure, mais aussi sur les personnes pour nous accompagner et sur les équipements généraux, on va dire autres, pour renforcer toute nouvelle attaque.
En parallèle de ces nouvelles mesures internes, Lagoon souhaite sensibiliser ses abonnés à la cybercriminalité et rappeler les bons gestes à adopter. Un mail a déjà été envoyé à l'ensemble de ses clients et une table ronde est prévue au cours des prochaines semaines.
Économie toujours avec l'actualité des transports aériens, comme ça avait été annoncé il y a environ un mois. C'est demain le départ du premier vol opéré par Air Calédonie à destination du Vanuatu. Michael Juneski.
La compagnie domestique effectuera une desserte depuis la Tontouta jusqu'à Port-Vila. La TR-72 de la compagnie décollera de la Tontouta à 15h pour une arrivée à destination prévue à 16h30, soit 1h30 de temps de vol. L'ouverture des réservations s'est faite il y a 3 semaines et la première rotation affiche déjà complet. Les précisions de Marion Gentelet, la directrice commerciale d'Aircal.
Nous faisons notre premier vol effectivement demain sur cette nouvelle destination de Port-Vila avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir. Et puis le vol affiche complet, donc on a 65 passagers qui vont inaugurer notre ligne avec quelques petites surprises pour les accueillir et faire qu'ils passent un bon premier vol avec nous. Au retour de Port-Vila, nous avons une trentaine de passagers qui sont déjà réservés sur l'avion. C'est un vol qui est en partenariat codeshare donc avec Air Calin. Donc les billets sont en vente aussi bien chez Air Calédonie et ses distributeurs que chez Air Calin et ses distributeurs. Ça a été effectivement une surprise ou en tout cas un point très positif pour nous, c'est que dès l'annonce de cette nouvelle ligne et l'ouverture des ventes, il y a eu un engouement vraiment notable et on va dire ce rythme de réservation continue à être relativement soutenu. On a déjà 1200 coupons qui ont été vendus. Donc pour nous, c'est au-delà de ce qu'on espérait. C'est une très bonne nouvelle et c'est aussi un signe que la ligne pourra vraiment se pérenniser. Donc c'est extrêmement positif et porteur pour la compagnie, évidemment, pour Air Calin, avec qui nous sommes en partenariat et qui, du coup, propose plus de solutions à ses clients, et puis pour les territoires qui vont, du coup, être reliés de manière pérenne.
Marion Gentelet, la directrice commerciale d'Air Calédonie. Il est toujours possible de réserver un billet aller-retour pour une offre promotionnelle à 28 952 francs jusqu'au 6 octobre. Des voyages qui seront possibles jusqu'au 31 mars 2025. La compagnie Air Calédonie effectuera une liaison régulière, 2 vols hebdomadaires vers le Vanuatu les lundis et jeudis et dès la semaine prochaine.
L'actualité des entreprises toujours avec des Calédoniens à fond la forme ce matin à l'ouverture de Décathlon rue de l'Alma. Une réouverture d'un point de vente physique en centre-ville de Nouméa, 4 mois et demi après le saccage et l'incendie du Décathlon de Kenwin. Un magasin plus petit mais qui regroupe l'essentiel des vêtements, chaussures et équipements sportifs. C'est donc un pari réussi pour Décathlon qui a attiré la foule ce matin.
On est bien content que ça soit réouvert, même si c'est le plus petit. Bon, on n'a pas pris grand-chose. Ce qui nous manquait, en fait, une paire de chaussures qu'on attendait et puis un bat pour faire la gymnastique.
J'ai trouvé des articles pour mon vélo électrique. Je suis content.
C'est bien, c'est nouveau et puis bon, les prix sont abordables.
Dans les autres magasins, c'était plus cher que Décathlon et ça fait plaisir. Il y a plus d'articles que dans les petits...
Ah, mais moi, je vais de la CAFAT. J'ai vu que c'est ouvert. Je profite. Je suis prêt à ça.
C'est net, c'est en ville, puis c'est tout prêt pour nous.
Au moins, c'est juste là. On n'a pas à prendre le car ou à se déplacer, c'est juste là, on marche juste de la maison.
Alors moi, je viens d'arriver de l'IFU, là, le premier vol. Du coup, je suis venue faire un petit tour. Le fait de revoir des choses qu'on avait encore avant, ça fait du bien. Et en même temps, de voir des choses pour préparer la Noël, parce que la Noël arrive à grands pas.
Et ce nouveau magasin Décathlon rue de l'Alma à Nouméa est donc ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour qui concerne l'actualité locale. On en a parlé dans nos précédentes éditions. Après la reddition des principales personnes recherchées à Saint-Louis pour des tirs contre les gendarmes, des carjackings et l'incendie de l'église de la Mission, faut-il selon vous rouvrir la circulation sur la RP1? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 78% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les organisateurs de la foire de Bourail ont eu raison d'annuler l'édition 2024. Ils sont 22% à penser qu'ils ont eu tort. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Bon, avant de refermer cette page, un rendez-vous qui n'a pas été annulé mais qui est bien maintenu. Vendredi s'ouvrira la Foire du Pacifique en baie de la Moselle. 250 exposants sont attendus, une foire difficile évidemment à organiser en raison du contexte. Mais les exposants ont vraiment souhaité qu'elle puisse avoir lieu malgré toutes les difficultés. L'occasion pour ces entreprises de repartir à la rencontre de leurs clients, des artisans, des prestataires touristiques et même des concessionnaires automobiles. Bruno Aurelio de Pacific Fair, l'organisateur, était notre invité ce matin sur RRB.
Je suis très très content, très soulagé. Ça a été très compliqué de la faire pour des raisons budgétaires et je ne voulais pas que ça soit une foire entre guillemets au rabais. Donc c'est sûr que même si on a beaucoup moins de moyens que les années précédentes, vous verrez visuellement, elle sera comme avant. Ce sera encore une fois une édition spéciale. Vous avez vu le thème de cette année, j'aime la Nouvelle-Calédonie, ça me semblait important. Évidemment, pas d'invité d'honneur cette année au vu de la situation.
C'est symbolique aussi ce thème aujourd'hui pour relancer la foire.
Oui, c'était symbolique. Pour moi, il n'y avait pas d'autre thème à avoir que la Nouvelle-Calédonie. Vu ce qui s'est passé, je pense que puisqu'aujourd'hui on a besoin de tous se retrouver. Il y a 250 stands, mais s'il n'y a que ça, ça serait dommage. La foire, comme je dis, c'est aussi 3 jours de fête, hein, je le dis chaque année, et je veux que ça reste comme ça. Des concerts, des spectacles, des ateliers, des dégustations dans les différents pôles, et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux visiteurs. C'est un événement grand public, il faut que ça reste bon enfant, familial, festif.
Et vous retrouverez notamment le stand Radio Rythme Bleu sur la Foire du Pacifique à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. L'occasion de nous rencontrer, bien sûr, mais aussi de jouer au traditionnel jeu de la roue avec énormément de beaux cadeaux à gagner ou encore le grand jeu de la foire. Ça se passe donc sur RRB. Retrouvez-nous au stand habituel, hein, vous le savez. C'est à gauche, au bout de l'allée centrale. Il est midi passé de 4 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Une première victoire, on s'en souvient.
Ah bah oui, ça je m'en souviens. J'étais en train de regarder le match de basket fauteuil. Impressionnant. En voyant ces joueurs-là, aussi rapides, j'ai réalisé que je pouvais en faire plus, moi aussi, avec mon fauteuil. Et j'ai demandé à ma femme d'installer un panier de basket dehors, et je m'y suis mis, un peu tous les jours. Les enfants ont commencé à jouer avec moi. Bon, au début, je les laissais marquer, mais maintenant, ça, c'est fini. Hein. Ah bah, j'ai vite gagné en précision, et au bout d'une semaine, on a commencé à être vraiment bons, et depuis, bah, on s'est jamais arrêté.
Après les jeux, on continue. Bouger 30 minutes chaque jour, c'est simple, et ça fait du bien. Ceci est un message du gouvernement.
Bénéficiez de nos offres chez Toyota jusqu'au 30 novembre. Économisez jusqu'à 34% sur l'achat de votre Toyota. Le nouveau Toyota Hilux simple cabine à partir de 2 295 000 francs. 2 295 000 francs. Le Toyota Hilux King Cab à partir de 2 495 000 francs. 2 495 000 francs. Le Toyota Land Cruiser à partir de 3 395 000 francs. 3 395 000 francs. Et le Toyota Yas à partir de 2 395 000 francs. 2 395 000 francs. Alors n'attendez plus et profitez de cette offre tant qu'il est encore temps. Jusqu'au 30 novembre. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive avec notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, on parle de football avec cette page sport. La deuxième journée de la Ligue des Champions et Léo Fichou, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que rien ne semble pouvoir arrêter les Brestois.
Effectivement, incroyable sensation cette nuit. Brest a donné une véritable leçon de foot au Red Bull Salzbourg. Une victoire 4-0 sur la pelouse du club autrichien. C'est la première participation la plus prestigieuse des compétitions européennes pour le club breton qui a remporté ses deux premiers matchs et donc provisoirement en tête du classement avec deux clubs allemands, Dortmund et le Bayer Leverkusen. En revanche, le Paris Saint-Germain s'est incliné contre les Gunners d'Arsenal. Une défaite 2-0 qui place les Parisiens à la 18e place. Demain matin à 6h, heure de Nouméa, Monaco ira à Zagreb affronter le Dynamo et Lille recevra le Real Madrid pour un duel entre les frères Mbappé.
Et puis du tennis avec cette victoire française au tournoi ATP 500 du Japon.
Une finale 100% française qui s'est jouée hier soir à Tokyo entre Hugo Humbert, 18e mondial, et Arthur Fils, classé lui 24e. C'est finalement l'outsider Arthur Fils qui s'est imposé en 3-7 après avoir sauvé une balle de match dans le deuxième. Nicolas Mahut, ex numéro 1 mondial en double, est emballé par les performances du jeune français.
Moi, je trouve que c'est vraiment au niveau de l'attitude qu'il a montré de grande qualité. Et puis après, dans le jeu, évidemment, meilleure utilisation de son service. Je l'ai trouvé en net progrès, même s'il avait déjà eu un niveau de jeu très élevé en bourre. Là, j'ai trouvé que sur la continuité du tournoi, il avait été très impressionnant. Il n'a que 20 ans, il ne fait que progresser. Il y a deux ans, il n'était pas dans les 200 premiers, il a fini l'année en gagnant des titres. Il y a des moments dans la saison où ça va être un peu plus compliqué, où il va avoir des trous, mais il progresse et on ne sait pas où il va s'arrêter.
À noter qu'Arthur Fils devient seulement le deuxième joueur cette année à remporter deux tournois ATP 500. Le premier, c'est tout simplement le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, l'Italien qui pourrait d'ailleurs ajouter un nouveau titre à son palmarès ce soir. Il affrontera à 20h, heure de Nouméa, Carlos Alcaraz en finale d'un autre ATP 500, celui de Pékin en Chine.
Et on termine avec un mot de handball chez les femmes. Le nouveau sélectionneur des Bleus a annoncé sa liste de joueuses sélectionnées pour des matchs amicaux. Et la Calédonienne Suzanne Wajoka va faire ses premiers pas sous le maillot de la sélection senior, Mikael Gineski.
Oui, la suite logique pour celle qui a suivi un parcours de longues années vers le plus haut niveau. L'ancienne joueuse de Dimbéa, partie en métropole en 2016, a déjà été capitaine de l'équipe de France junior et a pris part à plusieurs compétitions internationales dans les jeunes catégories d'âge. À 23 ans, elle sera pour la première fois sous le maillot des handballeuses tricolores seniors, vice-championnes olympiques 2024. Elle fait partie de la liste des joueuses qui devraient disputer deux confrontations face à la Hongrie. L'ailière gauche du club de Besançon sera avec l'équipe A contre les Hongroises, tandis que les cadres des Bleus ont été laissés au repos. C'est donc la confirmation pour Suzanne Wajoka qui pourrait intégrer durablement l'équipe de France féminine et disputer les matchs au sommet mondial en cas de réussite. Les 24 et 26 octobre prochains, les tricolores feront face donc aux Hongroises sur les terrains de métropole.
Merci beaucoup, Mickaël Gineski. C'est ainsi que se referme ce journal.